Ordéric le babuineur, d'Émile Bergerat. La vérité, si vous voulez l'entendre, c'est qu'on calomnie le Moyen-Âge. Je sais de beaux et bons esprits qui le regrettent. Est-ce bien leur faute? Quant aux poètes, jugez-en d'après ce conte, traditionnel chez eux, et beaucoup plus véridique que de l'histoire, telle qu'on l'écrit aujourd'hui du moins. L'an 1400, c'est-à-dire 39 années avant que le déplorable Gutenberg, de diabolique mémoire, eût jamais avili, en le banalisant par l'imprimerie, l'art mystérieux des lettres, il y avait à Saint-Évroult en Ouche, commune normande, depuis lors disparue, un admirable monastère où l'on copiait encore les manuscrits à la main. Aussi le Saint-Esprit planait-il sur cette douce abbaye, ruche de savants bénédictins. Son prieur s'appelait Thierry de Matonville. Il était bon helléniste et meilleur latiniste, et la théologie n'y perdait rien d'ailleurs, car c'était le temps béni où l'on menait de front et de concert l'étude d'Aristote et de saint Augustin sans qu'ils se nuisissent l'un à l'autre. Nul ne doutait, dès le vivant du saint homme, qu'il ne fût marqué d'avance du sceau du Christ, et qu'une bonne place ne l'attendît au paradis. Il avait d'ores et déjà son compte de miracles, si l'on tenait normalement pour tel les splendides copies, codices manuscripti, qui sortaient du monastère pour enrichir les librairies des rois, des princes, des évêques, et des belles châtelaines aux aumôniers d'or brodé. Il y employait sept moines calligraphes, triés sur le volet entre les meilleurs peintres de mots du royaume de France. Comme ils ne signaient pas leurs chefs-d'œuvre à cause des règles de l'humilité claustrale, leurs noms sont aussi ignorés que ceux des ciseleurs de cathédrales. On sait seulement que l'un des sept était un certain Odéric, qui, avant et après sa résurrection, fut la gloire du babunage. Je n'oserais jurer que ce vieux terme technique de babunage vous soit très familier. Il embrasse tous les travaux divers de l'art somptueux des manuscrits, l'écriture d'abord, puis les ornements marginaux ou autres, lettres ornées, culs de lampe, vignettes, miniatures enluminées, dessins en couleur, armoiries, etc. On recule à arrêter sa pensée sur la somme des talents de toutes sortes dont se composait le génie babuineur. Encore ne parlais-je point de l'érudition qu'il y fallait universelle. Mais le prieur en avait à lui seul pour ses sept moines, et c'était comme un autre alcuin guidant les siens à travers les ombres fulgurantes de la Bible sous l'œil impérial de Charlemagne. Les peintres de mots étaient réunis dès l'aube dans une sorte de cloître à arcades, à ciel ouvert pendant l'été, abrité d'une verrière pendant l'hiver, qu'on appelait le scriptorium ou salle à écrire. Ils y avaient chacun leur pupitre, leur haut tabouret, leur calame, leur godet d'encre variée et leurs feuilles de papier de soie blanc et velouté, plus les compas, règles et équerres. Devant eux, sur un lutrin, le parchemin du modèle s'éployait. Au centre du scriptorium, sur une vasque d'eau vive, un cadran solaire, cirque des heures, en marquait la course dans un silence de thébaïde auquel le père Thierry de Matonville présidait, assis dans sa haute cathèdre en bois sculpté et le menton à la main, prête à tout renseignement sur les textes et variantes, d'où de sa science immense. Les chroniques ne disent pas quels étaient précisément les six livres, chrétiens ou païens, monuments vénérables de la parole transmise et sauvée des barbares, que calligraphiaient les autres bénédictins du scriptorium. Sans doute était-ce, selon toute apparence, la Bible d'abord, puis le traité de la musique de Boèce, et encore les ouvrages universels de Cassiodore, surnommé le héros des bibliothèques. Il les transcrivait doctement du gothique, sans ponctuation ni interligne, en jolis caractères arabes, avec des plumes affûtées comme des becs d'oiseaux, alternativement trempées dans les quatre encres, la noire, la rouge, la bleue et la verte. Celles d'or et celles d'argent étaient réservées aux armoiries et au nom de Dieu quand il passait rayonnant dans les textes. À Saint-Évroult, les déliers, d'ailleurs célèbres, étaient exécutés à la plume de vautour. Un père, bon arbalétrier, en entretenait la provende. Quant à l'encre rouge, rubrum ou rubrum, d'où rubrique ainsi qu'on sait du reste, le Saint-Prieur la faisait venir directement de la mer tyrrhénienne, où des moines pêcheurs de l'ordre l'extrayait pour lui des madrépores. Et j'aurais tout dit de ces admirables manuscrits aujourd'hui si rares, quand j'aurais signalé aux amateurs l'impeccable correction de leurs custos ou réclames qui sont au bas de la page précédente, comme l'appel si aimable du premier mot de la page suivante. Thierry de Matonville y veillait en personne. Mais venons à Ordéric. Pour cet artiste extraordinaire, les renseignements sont certains. Sur son lutrin, à lui, c'était le signe de Mantoue qui chantait, et le signe de Mantoue, c'est Virgile. De l'aveu des pères de l'Église eux-mêmes, Virgile, qui d'ailleurs a pressenti la venue du Rédempteur, est le poète dont le verbe, si humain soit-il, c'est le plus rapproché de l'idiome rythmique que l'on parle dans la maison du bon Dieu. Il n'y a là-dessus aucun doute. Or, Ordéric s'était uniquement voué et consacré à l'œuvre virgilienne. Il la babunait, et il ne babunait qu'elle, depuis un quart de siècle, à un vers par jour, pas davantage. Mais avec quelle main prodigieuse! Le prieur en pleurait de béatitude dans sa stalle ajourée. Il se promettait bien de ne pas mourir sans l'avoir vue complètement babunée, et digne d'être offerte, dans l'étui nacré de perles, sinon au bon roi Charles VI, qui était déjà fou, du moins à Madame Isabeau de Bavière, sa chaste épouse allemande. Il y avait longtemps déjà qu'Ordéric avait terminé la copie des 10 bucoliques, qui ne fournissent que 836 vers, malheureusement, et aussi celle des géorgiques, les 4, qui se totalisent, hélas, à 2198 hexamètres, sans plus. Restait la sublime Énéide, préservée du feu par Mécène, qui est restée, de ce fait, immortelle. L'Énéide, je vous le rappelle pour l'intelligence de ce beau conte du temps passé, s'étale et se déroule sur 12359 alexandrins. Le moine y travaillait depuis 10 ans, et il n'en était qu'à la fin du 6e chant, soit à 4754 vers. Et le poème en a 12, mais il n'en a que 12 à l'inconsolable chagrin des hommes. Il est vrai que un vers par jour, et les dimanches et fêtes défalqués, Ordéric lui-même ne pouvait guère aller plus vite. En outre, cet artiste unique et tel qu'on n'en verra plus jamais de pareil, était un réceptacle de péché et véritablement un de ces moines légendaires que le Rabelais de l'Italie, Théophilus Folengo, a décrit d'après lui-même dans son Merlin Cocaï, un chef-d'œuvre que je nomme en rougissant. Hélas, c'est à peine si, à force d'autorité sainte, le vénérable prieur de Saint-Évroult parvenait à contenir son converse génial, et il faut bien le dire, persécuté tout vivant par le diable, qui n'est pas littéraire. Par malheur, Thierry de Matonville fut rappelé là-haut le soir même où Ordéric achevait le cul-de-lampe doré du 6e chant de l'Énéide. Il mourut sans bruit, le menton à la main, dans sa cathèdre, et 5 minutes après, il reprenait cette pose à la droite de Dieu, n'ayant pas eu la joie de pouvoir offrir le Virgile complet à la reine de France. Son maître et seigneur parti, Ordéric, sans frein, sema le scandale triple et quadruple dans la vallée d'Ouche, car il retomba dans les raies du tentateur qui, je le répète, déteste entre tous les lettrés. Les choses durèrent ainsi pendant nombre d'années, et Ordéric put mener à bien le 7e, le 8e, le 9e et 10e, voire le 11e chant de l'Énéide. Le travail restait toujours magnifique. Cela s'explique, en hagiographie, par ce fait que l'ange gardien du moine, qui l'abandonnait à la porte de tous les autres lieux de perdition, revenait le flanquer à celle du scriptorium et le soutenait au pupitre en l'éventant de ses ailes fraîches. Le 12e et dernier chant de l'Énéide comprend, je vous le remémore, 952 vers. Un vendredi 13, au moment même où, à la suite d'un repas sans mesure, il babunait le 951e et avant-dernier, celui-là même où Turnus, tué par Énée, tombe, les membres glacés de froid dans la mort, Solvuntur frigore membra, Ordéric, par une coïncidence étrange dont Satan menait l'aventure, succombait lui-même subitement à une apoplexie foudroyante. Son ange gardien n'eut que le temps d'ouvrir les bras pour le recevoir. C'était fini. Le Virgile de Saint-Évroult, faute d'un vers et du dernier, était perdu pour les royales librairies, trésor du genre humain. Et le cataclysme se doublait de cette désolation chrétienne que le moine, n'ayant pas eu le temps de se repentir de ses péchés et par conséquent d'en être absous, s'en allait là-haut sans viatique. Son ange l'emporta tristement au tribunal de l'Éternel. Je vous ai dit au commencement que l'on calomnie le Moyen-Âge. Mais allez donc aujourd'hui lui faire honneur de cette foi naïve aux dogmes évangéliques qui, du son des cloches envolées, du prisme féerique des vitraux, de la joie de ses fêtes fleuries, adoucissaient les plus rudes servages. On espérait en 1400, avant la découverte de l'imprimerie, et l'espérance, c'est le bénéfice de la croyance. Qui dira si, sur cette terre pleine de secrets ténébreux, qui dira si mieux ne vaut pas croire que savoir ? Toujours est-il que les misères humaines s'égayaient d'un paradis de rêve où l'orthodoxie tolérait les plus grandes libertés et laissait entrer l'art du peuple, si naturaliste fut-il, comme on le voit dans les sottises et les mystères. Rome ne s'est jamais fâchée que le dimanche, sur les places et devant l'église, le bon Dieu fut représenté avec une grande barbe, le diable avec des cornes de bouc, la Sainte Vierge en robe de brocart d'or, et l'église sourit quand les poètes leur prêtent des dialogues. L'âme du pauvre Ordéric était si lourde de péché sur les ailes de l'ange que son sort éternel en semblait écrit d'avance. Elle s'enfourchait d'elle-même, sans jugement, dans les tridents de Lucifer et de ses aides, par la loi seule de la pesanteur. « J'espère, ricana le prince des ténèbres, que celle-là vous ne me la chicanez pas. Je la réclame d'office. Pardon ? » fit une voix. « Plaidons ? » Et l'on vit descendre d'une haute chaire l'excellent Thierry de Matonville. Le mâle haussa les épaules. « Allons-nous procéder par dénombrement homérique pour une somme de péchés, tous mortels, et dont un seul me donne ce moine ? Et avons-nous du temps à perdre ?»« Nous en avons, dit le prieur, nous sommes en éternité. » Et il s'adossait à la croix de Jésus-Christ qui lui en prêtait l'appui miséricordieux. « C'est bien simple, reprit Lucifer avec colère, inutile de saliver, j'ai le relevé des 10 péchés, le voici. » Il suffira d'en chiffrer le total pour éclairer la religion du juge. « Combien ?» demanda Thierry. « Avec ou sans les véniels ?»« Les véniels ne sont pas de ton ressort. Ils ne font encourir que le purgatoire, qui est hors de tes états. Les péchés mortels seulement. Leur nombre ?»« 12 328, ricana le démon, en se caressant les cornes, comme on s'effile les moustaches. « C'est beaucoup, en effet, » fit le juge. « Pas pour moi. » fit le diable. Mais le prieur avait pris la parole, il dit. Il y a eu sur la terre un poète qui non seulement a parlé, mais qui a enseigné aux hommes la langue surnaturelle, divine, paradisiaque, que l'on parle entre anges et saints, et qui, père de la nature, est la tienne. Oui, c'est mon cher Virgile, confirma le Créateur. Combien a-t-il laissé de vers pour éterniser cette langue de miel ? Je l'ignore. Les as-tu comptés, l'abbé ? 12 329, soit un de plus que les péchés mortels de mon pauvre Ordéric, ici présent, qui les a tous babunés, sous mes yeux, en un manuscrit extraordinaire et digne de Madame Isabeau de Bav. La Sainte Vierge l'interrompit d'un geste, car il allait s'embourber. « Elle ne parle que l'allemand, » dit-elle. Et celui en qui réside toute justice établit l'équation suivante. 12 328 péchés d'une part, de l'autre, 12 329 vers de Virgile, la balance penche pour Ordéric, mais d'un vers, il a de la chance. Satan s'était élancé. « Un instant !» clama le méchant. « Le moine n'a pas babuné le dernier vers du 12e chant de l'Énéide. Donc les péchés égalent les vers. Or à égalité, c'est la règle, je l'emporte. » Alors l'Éternel secoua la tête, étendit son sceptre et dit au moine « Retourne à Saint-Évroult calligraphier ton vers. » Et c'est ainsi qu'Ordéric ressuscita. Mais il était temps, car 40 ans plus tard, le miracle eût été impossible ou inutile à cause de Gutenberg et de sa bête d'invention. Ainsi s'achève Ordéric le babuneur d'Émile Bergerat.